Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vincent Desseaux. Pour le meilleur de l'information. Cube Radio.
On se déplace à Québec, faire le tour de ce qui se passe dans la capitale avec le journaliste aux affaires municipales au Journal de Québec, Jean-Luc Lavallée. Bonjour Jean-Luc!
Salut Vincent.
Alors ce matin, moi, sur Twitter, je voyais les alertes rentrer du service d'incendie de la ville de Québec. Il y a eu un gros incendie dans Saint-Roch ce matin.
Oui, ben pour ceux qui connaissent le secteur, c'est derrière le palais de justice de Québec, donc dans le quartier Saint-Roch. Et c'est un gros édifice quand même qui a été la proie des flammes. Des gens qui ont été réveillés pendant la nuit. Il était quoi, 4h du matin? Ils ont dû évacuer d'urgence. Et c'est un édifice qui est adjacent à la microbrasserie de la Barberie, que tu connais sûrement très bien. C'est une institution ici dans la région de Québec. C'est une des premières microbrasseries qui a ouvert ses portes dans les années 90. Et ils ont été touchés aussi par cet incendie-là. Heureusement, le bar lui-même et l'usine où on fait la production brassicole n'a pas été touché, mais le chai et leur entrepôt se situent dans la bâtisse qui a été visée par un incendie. Alors, de leur côté, on parle surtout de dégâts causés par l'eau, mais c'était difficile d'en connaître un peu plus parce que l'édifice était bouclé jusqu'à tout récemment. Peut-être qu'au moment où on se parle, le périmètre a été levé, mais les policiers enquêtent sur les causes de cet incendie-là qui est suspect. Il y avait beaucoup de gens à rencontrer et donc l'immeuble était inaccessible là, toute la matinée. Donc voilà, des dégâts considérables. Ça a réveillé des gens cette nuit. Il y a au moins une vingtaine de personnes là, qui ont été jetées à la rue en raison de cet incendie-là dans une bâtisse qui est à la fois résidentielle et commerciale.
Oui, les dommages par l'eau, ça peut quand même être assez important aussi. On va attendre les détails pour la Barberie. Dossier aussi important, Jean-Luc, à Stoneham, hier, ce meurtre, un homme retrouvé dans un véhicule. Il y a toujours un mystère là, qui entoure ce décès-là.
Ben c'est très particulier cette histoire-là, effectivement. Puis ce qui est le plus triste, je pense, c'est il y a un ado qui a retrouvé qui passait par là et qui a retrouvé le corps ensanglanté dans un véhicule. C'est dans un secteur boisé de Stoneham. On n'ose pas imaginer la réaction qu'il a eue en tombant là-dessus. Et là, écoutez, jusqu'à il y a une heure à peu près, on savait toujours pas qui était la victime de ce meurtre-là. Et je dis meurtre, mais c'est possiblement que la police se garde encore une petite gêne, mais on nous dit quand même que tous les éléments pointent vers un meurtre. Et donc, la victime, on n'a pas son identité, mais il s'agit d'un ressortissant étranger de 20 ans. Ça, c'est ce qu'on a appris dans la dernière heure. Bon, les gens du coin comprennent pas trop, là. C'est très tranquille, cette zone-là. Véhicule tout seul comme ça dans le bois, est-ce que c'est un règlement de compte? On en saura sûrement un peu plus lorsque l'enquête avancera, mais les gens ont été très, très surpris, là, évidemment. Puis ici, dans la région de Québec, ben c'est le troisième meurtre depuis le début de l'année.
Chantier qui sera à surveiller dans les prochaines années, le nouveau pont de l'île d'Orléans. Et là, il y aura un chantier préparatoire pour le futur pont à Auban. Ça fait pas plaisir aux producteurs de pommes de l'île d'Orléans parce qu'on va aller et qu'on rende la saison de la pomme un peu plus complexe.
Ben, c'est ça. Ça, c'est une histoire de ma collègue Diane Tremblay ce matin dans les pages du journal. Puis c'est ceux qui sont déjà allés à l'île d'Orléans pendant la saison des pommes savent à quel point c'est difficile de s'y rendre. Il y a beaucoup de trafic. Il y a un achalandage quand même assez accru. Et là, donc, le MTQ va débuter dès la semaine prochaine un chantier important dans la côte qui mène au pont. Donc, on dit que ce sont des travaux préparatoires en prévision du vrai gros chantier qui va débuter là, en 2024, je pense, au ferreur pour le nouveau pont à Auban. C'est juste qu'effectivement, ça tombe en plein milieu de la saison des pommes. Et
là, donc, c'est sur la route actuelle. C'est ça, c'est sur la route actuelle, mais pour le futur pont. Donc là, on empiète sur les voies, on va être obligé d'aller en alternance pendant la période la plus achalandée. Je peux quand même comprendre un peu l'exaspération des producteurs de pommes.
Oui, puis il y en a qui demandent même au NPQ de faire marche arrière, de retarder les travaux. On demande aux élus municipaux de faire pression sur le NPQ pour essayer de changer l'échéancier, parce que à l'origine, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce chantier-là devait débuter au mois de mai. Alors peut-être que ça aurait été pratiquement terminé pour la fameuse période de la récolte des pommes, mais là, c'est pas le cas. Et au NPQ, on pointe du doigt la grève des ingénieurs. On dit que c'est ça qui a retardé le lancement du chantier. Mais on peut comprendre que si il y a déjà parfois des files d'attente de trois quarts d'heure, une heure pour accéder à l'île en pleine période des pommes, mais là, s'il y a deux voies sur quatre qui sont retranchées sur le pont, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors les producteurs redoutent même que ça puisse faire carrément rebrousser le chemin à plusieurs personnes qui vont dire oh, il y a beaucoup trop de gens. Alors, on est là-dedans, là. Je sais qu'il y a beaucoup de tergiversations, de pressions qui sont faites auprès du NPQ pour tenter de faire retarder le chantier-là.
La fête arc-en-ciel, on a beaucoup parlé, Jean-Luc, de, évidemment, Fierté Montréal, où ça a été une catastrophe en fin de semaine, annulation dernière minute du défilé de la Fierté, qui est l'élément fort de tout l'événement, où on sait que la mairesse demande des comptes, d'ailleurs, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Pour la fête arc-en-ciel, donc l'événement similaire, mais à Québec, la marche tient toujours, c'est le 4 septembre, et on tient à ce que ça se passe bien là-bas.
Oui, et ici on dit, regardez, on a vu ce qui s'est passé à Montréal, on est conscient qu'il y a eu un fiasco là-bas, d'ailleurs on veut savoir ce qui s'est passé nous aussi, mais on vous assure que chez nous, ça n'aura pas lieu, même si on recherche encore et toujours des dizaines de bénévoles, on est confiant d'y arriver. Et ce qu'on dit aussi à Québec, c'est que, on devrait réussir à recruter tous ces gens-là à temps. Faut comprendre aussi que c'est pas un défilé hein, à proprement parler, comme à Montréal, c'est pas exactement la même chose. Ici à Québec, la fête arc-en-ciel, ça dure plus d'une semaine et il y a donc une marche. Alors c'est pas une parade avec des chars allégoriques et tout ça, mais on est bien confiant que ça puisse même attirer encore plus de gens à Québec si c'est passé à Montréal, parce que les gens ont le goût là de manifester, d'aller dans la rue. Ils ont des revendications à faire valoir avec tout ce qui se passe aussi aux États-Unis. On pense donc qu'il pourrait y avoir encore plus de gens à Québec cette année.
Et on peut terminer, Jean-Luc, en revenant sur ton article d'hier concernant le fait que le redécoupage de la carte électorale fédérale, ça fait jaser à Québec sur la rive sud. On a parlé de la Gaspésie du Saguenay, entre autres, mais à Québec aussi, puisqu'il y a des gens qui vont changer de comté.
Oui, puis il y en a quand même beaucoup. Je faisais le décompte, c'est difficile d'arriver à un chiffre précis, mais il y a... Je pense qu'on peut parler sans tromper de dizaines de milliers d'électeurs qui vont changer de comté sans avoir déménagé, parce que c'est un peu ça le redécoupage de la carte électorale. À chaque 10 ans, la loi est ainsi faite, il faut redéfinir les limites de chaque circonscription pour que chaque électeur ait un poids politique équivalent ou presque, parce qu'on essaie d'atteindre un équilibre d'environ 108 000 personnes par circonscription, 108 000, 109 000. Et ça crée des frictions parce que dans certaines circonscriptions, on enlève des gens, dans d'autres, on en ajoute. Puis il y a quelques incongruités sur le terrain, en tout cas qui sont relevées par des députés qui sont pas très contents. Entre autres, dans Lotbinière, sur la rive sud de Québec, il y a 7 municipalités sur 18 de la MRC de Lotbinière qui vont changer carrément de comté. Elles ne seront plus dans Lévis-Lotbinière, elles transfèrent dans Mégantic-Lérac. Alors, le député actuel conservateur de Lévis-Lotbinière, Jean de Gourde, lui, est très déçu. Il dit que même ma femme et mes enfants pourront plus voter pour moi parce que la municipalité où je réside va changer de comté. Alors, il y a aussi des gens sur la rive nord qui sont mécontents parce que la très, très grande circonscription de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, va intégrer une partie d'un quartier de Charlebourg. Ça te donne une idée, là, c'est une circonscription qui est tellement vaste qu'il se rend jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, à l'extrémité est, juste avant Tadoussac. Et là, tu vas avoir un petit quartier de Charlebourg, Montagne des Roches, secteur Château-Bigot, qui va être intégré dans cette circonscription-là. Alors, encore une fois, député conservateur du coin, Pierre Paulus, lui, est pas content. Il dit, voyons, il faut quand même être logique aussi et tenir compte des réalités du terrain. Je peux pas croire que des gens de Charlebourg vont avoir une députée qui est à la Malbaie. Ça, c'est le genre de réflexion qu'on a. Mais il faut comprendre une chose. C'est une proposition qui est sur la table en ce moment de redécoupage de la carte électorale. Il y aura des audiences publiques qui auront lieu en septembre, entre autres ici à Québec. Il y en a à Lévis aussi. Et il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de gens qui vont manifester leur opposition à la proposition qui est sur la table. Pourrait peut-être y avoir des changements par la suite. Peut-être que c'est pas béton, comme on dit. Ouais. Mais
on comprend que c'est quand même un travail qui est pas simple, là, des fois. Là. Faut faire très prudent avec ça, parce qu'on a vu, entre autres aux États-Unis, ils font ça allègrement, le gerrymandering, où on va aller modifier un État pour favoriser un parti ou l'autre. C'est sûr qu'à maintenant, à la frontière, il y a du monde où, oui, ça serait plus logique qu'il soit de l'autre bord, mais pour respecter le prorata de la population, il faut en mettre un peu. Ça doit pas être... Il y en a qui doivent se casser la tête pour essayer de trouver une ligne qui fait du sens, là, mais c'est
Mais forcément, quand on fait ça, on écorche les sensibilités.
Exact.
Puis il y a des gens qui sont très émotifs là-dedans. Puis je pense à des gens qui perdent un peu leur identité dans tout ça. Là, je te donne un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qu'il m'a dit, mais Gérard Deltel, le député de Louis-Saint-Laurent, ben lui, il perd le secteur de Wendake, alors qu'il est
l'interlocuteur. Il est très proche. Là, ben oui.
Et Huron. Depuis des années, il perd aussi la moitié quasiment du quartier Loretteville où il a grandi. Alors c'est sûr que je me mets à la place d'un député qui représente ces gens-là depuis des années. Puis là, tout d'un coup, ben tu perds ces électeurs-là pour des raisons purement mathématiques. Là. C'est sûr que c'est un choc pour bien des gens là, ici aussi dans la région de Québec. Mmh.
À suivre, Jean-Luc. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.
Salut, Jean-Luc Lavallée, journaliste aux affaires municipales au Journal de Québec.